Voilà, soyez dans la joie parce que nous allons parler de l'histoire de notre pays. À mes auditeurs, chers internautes, bienvenue à cette émission centrée sur l'histoire avec le père Maker Manimba. Il n'est plus à présenter. Il est avec nous chaque samedi pour le compte de cette émission et je suis là pour la modération. Paisible soirée à tous ceux qui sont branchés à Kinshasa, à l'extérieur de la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans la partie est de la République démocratique du Congo. Père, bonsoir.
Bonsoir Bob, bonsoir.
Voilà, nous sommes heureux de continuer avec l'histoire de notre pays. On avait dit, nous allons parler de l'histoire. On va pas seulement s'arrêter de l'histoire de notre pays, mais nous allons toucher toutes les couches, parler de l'histoire, bien sûr. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons beaucoup plus centrer cette émission sur l'expropriation des indigènes congolais par Léopold II. Déjà, je vais poser la toute première question. Comment Léopold II a-t-il exproprié les indigènes congolais?
Nous aurons le temps de développer cela, mais si je peux déjà donner une idée aux auditeurs, Léopold II occupe légalement le Congo à partir de 1885, et cela va durer 23 ans. Et durant ces 23 années de son règne sur le Congo, Léopold II va instituer une espèce d'esclavage, c'est-à-dire de travail forcé, et les indigènes congolais vont perdre la plupart de leurs terres, le terre que Léopold II va appeler terre vacante. Et au cours de l'émission, je vais pouvoir expliquer cela. Donc, Léopold II, on peut le considérer comme un roi qui est venu s'enrichir au Congo sur le dos des indigènes nègres.
Voilà. En pratique, comment les indigènes congolais réalisaient-ils que le nouvel État s'installait dans leur contrée?
Déjà, il faut dire que les indigènes congolais n'étaient pas informés de la création de cet État indépendant du Congo. C'était un État atypique. En tant que tel, il faut dire que l'année 1885 marque un tournant majeur dans l'évolution des sociétés congolaises. Et les Congolais désabusés se sont vus contraints de reconnaître l'autorité d'un roi étranger, Léopold II, devenu du jour au lendemain le souverain de tous les bassins conventionnels du Congo. Pour ces indigènes congolais, donc, 1885 représente une rupture avec leur passé et le début d'une triste période de domination et d'exploitation abusive. Et en pratique, comme vous me le demandez, comment les indigènes réalisaient que le nouvel État s'installait dans leur contrée? C'était souvent lors d'opérations militaires au cours desquelles les forces d'occupation, c'est-à-dire les troupes coloniales, obligeaient les autochtones, c'est-à-dire les indigènes, à s'engager pour un certain nombre de prestations en faveur du nouvel État, comme on peut le comprendre dans les discours prononcés les 18 mars 1891 par Charles Lemaire, premier administrateur du district de l'Équateur, devant le chef autochtone. Et je dois rappeler que c'est en réalité en 1891 que commença l'exploitation du caoutchouc au Congo. Et ce caoutchouc a entraîné des conséquences fâcheuses sur tous les bassins congolais. Alors, je voudrais donner lecture du discours prononcé par le commissaire de district Charles Lemaire. J'ai dit qu'il était administrateur du district de l'Équateur. Alors, quand il arrive devant le chef autochtone, le chef des Wangata, il dit ceci: Boulamatari, chef de tout le pays, m'a envoyé, et donc c'est Léopold II, m'a envoyé pour faire ici un grand village. Ceux qui ne seront pas ses amis auront la guerre. Pour nourrir mes hommes, les villages d'amont viendront tenir un marché à la station tous les 4 jours, de même que les villages d'aval, les jours de marché étant alternés des deux en deux. Un blanc amènera les hommes au marché qui sera ouvert et fermé par le tambour. Les villages fourniront de vivres aux blancs. On payera un mitako pour 3 œufs. Chaque village fournira à son tour une damjan de Masanga gratuitement. Alors ceux qui n'exécuteront pas les ordres des Bulamatari, ben voilà, ils connaîtront la guerre. Ça, c'est un peu les discours que tient ce commissaire de district. Et on voit que dès le départ, les habitants du bassin congolais, bien que théoriquement citoyens du nouvel État, étaient considérés comme de simples sujets du roi et des Belges. Et donc, ils étaient astreints aux travaux forcés et ils devaient faire ce que leur demandaient les agents du nouvel État.
Nous poursuivrons, Père Makeur Manimba. Peut-on dire que les indigènes congolais avaient accueilli favorablement la mission civilisatrice telle qu'annoncée par le roi Léopold II?
Mais pas du tout. Lors d'une émission, je vous avais dit que le roi Léopold II avait organisé une conférence géographique à Bruxelles. C'était en septembre 1876. Et là, il s'était présenté comme le philanthrope, celui qui allait apporter la civilisation en Afrique centrale. Mais voilà, j'ai dit, les Congolais, ils n'étaient pas du tout d'accord avec les méthodes de Léopold II. Ils subissaient une injustice en réalité. Ils étaient réduits en esclavage sur leurs propres terres, confrontés aux dures réalités de l'entreprise coloniale. Ils subissaient quotidiennement des humiliations de la part des envahisseurs. Ils durent s'organiser comme ils pouvaient, mais après maintes et vaines tentatives de résistance, les indigènes congolais finissaient par se soumettre à l'autorité coloniale. Et du coup, ils acceptaient toutes les conditions de l'envahisseur, parce qu'il devait fournir vivres, porteurs et jeunes gens robustes pour le service d'un État qui avait énormément besoin de main-d'œuvre. Alors, perçu sous cet angle, je dois dire que l'occupation effective du bassin congolais par Léopold II et ses hommes ne fut pas la pacification, ce fut même pas une mission civilisatrice, comme on l'a prétendu. Les territoires ne furent créés que pour l'exploitation. Pour cela, on pouvait piller et incendier les villages, tirer des manières inconsidérées sur les indigènes congolais non armés et continuer à verser du sang innocent. Toutes ces méthodes violentes n'avaient rien à voir avec la mission civilisatrice, comme le prétendait Léopold II.
Voilà, nous rappelons que nous sommes en direct aujourd'hui pour les comptes de cette émission. Centré sur l'histoire avec le père Makeur Manimba, nous parlons de l'expropriation des indigènes, par les indigènes congolais par Léopold II. Là, nous continuons. Je sais que vous désirez poser des questions. On va vous accorder cette chance, cette opportunité. On continue toujours avec vous, père, par rapport à ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu comme expropriation. Avez-vous de preuves irréfutables pour affirmer que Léopold II et ses agents s'étaient livrés à la violence contre les indigènes congolais entre 1885 et 1908?
Oui, je détiens énormément de preuves à cet égard, comme par exemple le fait que toutes les deux semaines, les hommes, c'est-à-dire les Congolais, en âge de travailler, devaient fournir à l'État indépendant du Congo 5 kilos de caoutchouc séché. Ça demandait énormément de travail en deux semaines. Et les récalcitrants devaient subir la rigueur de la loi léopoldienne, c'est-à-dire arrestation, flagellation à la chicotte, mutilation des membres. C'est au Congo qu'on a parlé de mains coupées, pas seulement de mains, mais aussi des membres inférieurs. Les femmes se retrouvaient souvent emprisonnées aussi avec leurs enfants, lorsque leur mari s'était enfui. Il y avait aussi incendie des villages, incendie des récoltes aussi, tout comme des champs cultivés par les indigènes. Autre preuve, dans les propos de Charles Lemaire, Charles Maire, je l'ai évoqué tout à l'heure, ancien commissaire du district de l'Équateur. On peut discerner le rejet de cette mission civilisatrice à l'envers. Je vais encore donner lecture d'un petit discours ou d'un écrit de M. Charles Lemaire. Il dit « Pour moi, comme pour tout le monde, l'Afrique centrale n'était qu'une terre d'épouvante. Mon esprit était tout prêt à accueillir le dire de nos anciens. C'est ainsi que mon éducation africaine commença dans les coups de fusil et des canons, dans les incendies des villages des Noirs à mettre à raison, en un mot dans l'abus et le surabus de la force avec tous ses excès. Je devins chef à mon tour au district de l'Équateur. Pendant un temps, je suivis les exemples reçus, puis peu à peu, j'en vins à douter de l'excellence de nos procédés. » Et vous voyez, ça c'est un haut fonctionnaire qui regrette d'avoir travaillé pour Léopold II. Et ses propos émanant de ce haut fonctionnaire de l'État au terme d'une expérience administrative africaine, c'est une expérience frustrante. Et ça dit long sur les méthodes d'administration et d'exploitation pratiquées par l'État indépendant du Congo. C'était un usage excessif de la force militaire, appropriation abusive des terres africaines, pillage et incendie des villages. Mais c'était surtout le massacre des Congolais. Et au regard de faits rapportés, on peut affirmer que le régime prédateur de Léopold II s'est établi par la force et que c'est par la force qu'il s'est maintenu pendant 23 ans, occupé avant tout à la spoliation des terres indigènes.
Nous continuons avec vous, Père. Père, ça va venir toujours. Professeur, ici, êtes-vous en train de nous dire que Léopold II avait mené au Congo une politique économique visant à déposséder les indigènes de leurs terres?
C'est exactement ce que je suis en train de dire depuis les débuts de cette émission. Parce qu'avec Léopold II, il y a eu spoliation de terres indigènes. Mmh. Et je crois qu'on continue à vivre cela au cours de l'histoire congolaise, c'est toujours ça. On a des mauvais amis, parfois des mauvais voisins aussi qui nous envient. Et du coup, ils travaillent à la spoliation de nos terres. Et donc, à l'époque de Léopold II, c'était le cas. L'État indépendant du Congo n'a pas mis longtemps pour s'approprier les terres dites vacantes. Et c'est là, en application du code Napoléon, à son article 711. Alors, ce code Napoléon dit ceci. Le bien sans maître appartient à l'État, ou encore en application de la vision hégémonique du Reich Wilhelmien, c'est-à-dire des Allemands, à la fin du 19e siècle. Donc les Allemands disaient, si la race noire n'est pas en mesure de mettre en exploitation les immenses ressources que la nature lui a confiées pour le bonheur de l'humanité entière, il appartient aux autres races de le faire à sa place. Donc, vous comprenez que c'est l'institution ou l'institutionnalisation de la violence. Et les débats, voyez-vous, renvoient aux préoccupations de Léopold II qui, à partir de 1885, avait cherché à définir le fondement de la propriété indigène en fonction des intérêts de son État, en instaurant une politique indigène brutale fondée sur des logiques d'exclusion et d'enfermement. Et donc la politique économique préconisée par Léopold II au Congo niait la notion même des propriétés chez les Noirs et ne reconnaissait à ceux-ci que la possession de terres mises en culture au moment où la puissance impériale procédait à la délimitation de terrains. Et je crois que ça peut suffire et on va avancer pour voir comment cette expropriation se mettait en place, comment elle s'organisait.
Nous allons avancer, il ne faut pas vider toutes les flèches dans votre cœur. On va observer une minute, quelques secondes, que la technique va nous proposer un coussin de musique avant de poursuivre. Voilà, merci. On continue. Nous sommes en direct, c'est samedi, pour vous parler de l'expropriation des indigènes congolais par le roi Léopold II. Là, nous sommes avec le père Maker Manimba. C'est avec lui que nous parlons de cette histoire. Comment cette politique économique opère déprédatrice a-t-elle évolué?
D'abord, il faut dire que tout cela se passait à l'insu des indigènes congolais. Ces indigènes n'étaient informés de rien. Regardez, les jours même de la proclamation de la naissance de l'État indépendant du Congo, le 1er juillet 1885, l'administrateur général de cet État, c'est-à-dire celui qui représentait Léopold II ici au Congo, il s'appelait Monsieur Francis Devington, un Anglais. Il était en poste à Vivi. Alors, ce 1er juillet 1885, il fait au nom du roi Léopold II une déclaration assez étrange. Alors il dit, un décret du souverain invitera nécessairement, pardon, incessamment tous les non-indigènes qui possèdent actuellement ou occupent actuellement un titre quelconque de terres situées sur le territoire de l'État indépendant du Congo. C'est-à-dire, on va inviter tous ceux-là à faire une déclaration officielle indiquant que ces terres seront soumises à un examen, mais surtout à l'approbation du gouvernement congolais. Et en attendant, pour éviter des contestations et des abus, Monsieur Devington était autorisé à cet effet par le souverain Léopold II. Il arrête. Il y a deux dispositions. On va les parcourir. La première disposition, c'est qu'à partir de la présente proclamation, aucun contrat ni convention passé avec les indigènes pour l'occupation à un titre quelconque de partie du sol ne sera reconnu par le gouvernement et ne sera protégé par lui, à moins que le contrat ou la convention ne soit fait à l'intervention de l'officier public. Voilà. Ça, c'est la première disposition. La seconde, c'est que nul n'a le droit d'occuper sans titre de terres vacantes, ni de déposséder les indigènes de terres qu'ils occupent. Les terres vacantes doivent être considérées comme appartenant à l'État. Alors, je vais expliquer cela. Qu'est-ce qu'on entend par terres vacantes? Dans l'entendement de Léopold II et ses hommes, les terres vacantes sont toutes les terres non exploitées par les indigènes congolais. En d'autres termes, ça veut dire les terres qui n'avaient pas été mises en culture au moment où Léopold II annonçait la naissance de cet État. Vous pouvez imaginer, les indigènes, ils font de petits champs. Et du coup, toutes les terres qui n'étaient pas cultivées étaient considérées comme terres appartenant à l'État. Et c'est déjà là que commençait l'injustice.
Voilà, l'injustice a commencé par là. Peut-on affirmer que cette déclaration est d'une grande importance dans la compréhension du régime foncier que l'État indépendant s'apprêtait à mettre en place?
Juridiquement parlant, cette disposition ou cette déclaration annonçait ce qui serait bientôt pris ou considéré comme politique économique pour la gestion de terres dites vacantes. On les appelle aussi terres domaniales. Mais l'unique propriétaire sera désormais le nouvel État. Mais quand on dit nouvel État, en réalité, c'est Léopold II. Léopold II en personne. Parce que dans cet État indépendant du Congo, il y avait pas de parlement. Léopold II était des grands chefs et il avait son représentant ici en la personne du gouverneur général. Donc c'est lui qui décidait tout. Mais tout cela, encore une fois, se fait à l'insu et sans la moindre implication des indigènes congolais auxquels on ne reconnaît plus légalement le droit de concéder ou de céder l'occupation de quelque partie que ce soit de leur propre sol, soit à titre des propriétaires, soit à titre d'usage, sans l'intervention de l'État. Donc les indigènes commencent à perdre petit à petit toutes leurs propriétés. Et la mise en scène fonctionna parfaitement bien. Puisque le même jour, c'est-à-dire le 1er juillet 1885, à Bruxelles, c'est-à-dire depuis son palais de Laeken, très loin de Vivi, une ordonnance royale, c'est-à-dire Laeken, c'est le palais royal, hein, une ordonnance royale, en son article 2, prévoyait que nul n'a les droits d'occuper des terres vacantes. Voilà, il reprenait presque le discours de M. Francis Devington. Et donc, on comprend immédiatement que pour Léopold II, toutes les terres qui n'étaient pas, disons, mises en valeur par les indigènes devaient appartenir à l'État indépendant du Congo et qu'à partir de ce moment, les indigènes devraient se référer à l'État pour toute autre activité comme la chasse, la pêche ou la cueillette. Et donc, les Noirs perdaient petit à petit leurs droits sur tous ces territoires.
Il semble, je dis bien il semble, que pour étayer et défendre cette théorie domaniale, Léopold II a dit auparavant consulter des juristes belges. Tous avaient-ils une même compréhension des terres vacantes?
Tous ou presque définissaient les terres vacantes comme des terres qui n'ont été soumises ni à la culture, ni à la jouissance des particuliers, des terres qui n'ont pas encore des possesseurs, donc qui sont sans maître. Une telle terre peut être valablement occupée et érigée en propriété par le premier venu. Et en ce qui concerne le Congo, le premier venu, c'était l'État indépendant du Congo. Donc, Léopold II, même s'il n'avait jamais foulé le sol congolais, mais il commandait à partir de son palais royal à Laeken, à Bruxelles. Et donc, ces juristes étaient des défenseurs acharnés des intérêts de l'État indépendant du Congo. Et ils estimaient que l'ordonnance du 1er juillet 1885 était conforme aux principes universellement appliqués du droit des gens, parce que d'après eux, cette ordonnance respectait l'équité sans laquelle il n'y avait pas de droit, en consacrant l'inviolabilité de la possession des indigènes antérieure à la constitution de l'État. Et donc, à partir du moment où l'État indépendant a annoncé au monde entier que Léopold II devenait le propriétaire de tous les bassins congolais, alors les indigènes n'avaient plus aucune propriété, alors que chez nous, en Afrique, la propriété, elle est collective. Elle peut appartenir au clan ou à une tribu.
On continue, mais on avance lentement vers la fin de cette émission. On va continuer parce qu'on parle de l'histoire. Comment réagissez-vous à cette théorie domaniale?
Alors, à mon avis, la prétention de Léopold II, c'est-à-dire de l'État indépendant du Congo sur les terres dites vacantes ou non immatriculées, ne tenait tout simplement pas compte des coutumes et des usages des autochtones congolais, dont les terres étaient périodiquement mises en jachère ou en réserve. Hein, nous connaissons nos réalités. C'est-à-dire, si cette année, nous défrichons dans une partie de notre forêt, l'année qui vient, on va changer d'endroit, de lieu. Et Léopold II ne prenait pas cela en considération. Mais il faut aussi parler des forêts sacrées qui caractérisaient le système culturel généralement pratiqué. Et en ignorant toutes ces réalités socioculturelles du bassin congolais, Léopold II et ses hommes oubliaient que seuls les indigènes pouvaient réellement les renseigner sur la situation et les droits préexistants. D'autant qu'ils connaissaient mieux que quiconque le principe de la première occupation comme titre de propriété et savaient surtout que leurs ancêtres s'étaient appropriés les terres souvent après sacrifice rituel. Et là où l'État indépendant du Congo tentait vainement d'introduire la distinction entre une possession exclusive et une possession limitée du sol, les indigènes n'y voyaient qu'une seule et même propriété, se réservant exclusivement tous les droits fonciers en fonction de leurs besoins vitaux. Pour les autochtones, en effet, quand je dis autochtones, je vois les indigènes, c'est-à-dire les gens qui avaient toujours vécu à tous ces endroits. Pour eux donc, la terre que l'on possède ne se limite pas à la superficie du village ou à la superficie des champs. Les immenses surfaces destinées à la chasse, à la pêche et à la cueillette auraient dû être considérées comme rentabilisées et donc respectées en tant que telles. On le voit bien, l'occupant européen, c'est-à-dire Léopold II, oubliait que l'indigène devait vivre en grande partie de la chasse, de la pêche et de la cueillette, qu'il avait besoin de sa forêt pour tout ce qui lui servait à se nourrir, s'habiller, s'abriter et se rendre la vie possible et agréable. Et il oubliait également que l'emplacement du village et des cultures devait pouvoir être changé régulièrement. Et donc, si on prend tout cela en considération, on peut comprendre que finalement, les indigènes détenaient énormément de terres qui leur appartenaient et que ces terres devaient leur servir pour leur subsistance.
Je pense que ça sera ma dernière préoccupation pour finir. Peut-on donc affirmer que l'ordonnance du 1er juillet 1885 ouvrait la voie à une sorte de politique d'expropriation?
Tout à fait. Ce que Léopold II a fait au Congo, c'était... il a pratiqué une politique d'expropriation, c'est-à-dire il a dépossédé les indigènes. Parce que la propriété coutumière foncière au Congo, comme partout ailleurs en Afrique, était essentiellement collective, inaliénable. Et malgré cette appropriation collective, il n'était pas rare que des droits d'usage soient accordés sur la terre aux membres de la collectivité, éventuellement aux étrangers qui en faisaient la demande. Mais ces étrangers devaient respecter un certain nombre de règles. Alors on voit ici que Léopold II, avec son ordonnance du 1er juillet 1885, voilà, il n'avait pas respecté toutes ces règles parce qu'il piétinait les usages coutumiers congolais. Il niait le droit des indigènes de disposer et de jouir paisiblement de leurs terres. Et de cette façon, il ouvrait dangereusement la voie à une véritable politique d'expropriation. Et on peut dire que Léopold II, à partir de ce moment, avait tout arraché aux Congolais. Et lorsqu'il va céder le Congo aux Belges, les Belges vont récupérer toutes les richesses foncières de Léopold II. Et les Congolais, finalement, étaient le plus grand perdant.
Permettez-moi de poser cette question, père. Comment pouvez-vous aujourd'hui présenter les rois Léopold II ?
Pour moi, Léopold II, c'était un roi extrêmement intelligent, qui avait le sens des affaires, mais surtout qui avait un regard sur toutes les affaires du royaume en Belgique, mais surtout sur les affaires congolaises. Seulement que, même s'il avait posé les jalons d'un État moderne congolais qu'on verra après l'indépendance. Mais Léopold II s'est comporté avant tout comme un homme d'affaires. Et au nom de ses affaires, il était prêt à sacrifier les Congolais. Et peut-être que prochainement, nous parlerons des atrocités commises par les hommes de Léopold II au Congo. Et on verra que ces rois avaient commis des crimes. Et je parlerai même de crimes contre l'humanité. Et donc pour moi, je dois dire finalement que Léopold II, même s'il était un grand roi intelligent, affairiste, il était quand même un roi mégalo, un roi qui ne comptait que sur ses intérêts, un roi qui n'avait pas fait grand-chose pour le peuple congolais, mais surtout un roi qui avait participé au massacre de millions de Congolais entre 1885 et 1908.
Bien, voilà. Merci beaucoup, Père Makaire Manimba. C'était la première partie de cette émission. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous accorder la parole dans les jours à venir. C'était important de vous proposer cette première partie, une partie magistrale. On aura le temps de vous communiquer encore le numéro pour nous joindre. Mais dis-moi, vous qui nous captez partout, on était en direct pour vous parler de cette expropriation des indigènes congolais par Léopold II. Père, avez-vous quelque chose à ajouter en dehors de tout ce qu'on a posé comme question?
Oui, mais je voudrais dire tout simplement que les Congolais doivent connaître cette histoire. Les Congolais doivent savoir que dès la fondation de l'État indépendant du Congo, mais voilà, ce pays a commencé à être pillé. Et je crois que nous continuons à vivre toutes ces réalités malheureuses. Mais c'est peut-être là une occasion pour nous de nous ressaisir, de nous organiser pour protéger ce pays qui nous a tout donné, ce pays que nous aimons beaucoup. Nous devons le protéger, nous devons surtout le transformer pour le bien de tous les Congolais, afin que les Congolais et les Congolaises se sentent heureux ici chez eux au Congo. Merci beaucoup.
Merci à vous, professeur Makir Manimba. On rappelle que vous êtes au Blas de Marie, vous êtes recteur de l'université de Masnout. Merci pour cette disponibilité. Déjà également merci à la technique. Merci à cette grande équipe. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Vous aurez tous les temps de poser vos différentes questions lors de la prochaine émission. Restez-vous bien, restez-nous fidèles. Bob Kilongo avait le plaisir de modérer cette émission. Paisible soirée chez vous. Au revoir.